l'invité du dimanche,
en partenariat avec Midi Libre,
sur 48FM,
9h30 et 18h30.
Alors, je suis Marianne et je fais partie du RESF Lozère depuis novembre 2007.
Pour Midi Libre, Luc Crespon-Lérisson et pour 48FM, Ludovic Terrol.
Alors, expliquez-nous un petit peu la naissance du réseau RESF en Lozère. Comment il est né, à quelle époque ?
Alors, justement, en fin 2007, parce que une famille kosovare qui était accueillie au CADA de Chambon-le-Château, dont les enfants étaient scolarisés là-bas, cette famille a été expulsée au mois de juillet pendant les vacances. C'était une chose que j'ignorais totalement. Je ne savais même pas qu'il y avait un centre de demandeurs d'asile à Chambon-le-Château, vous voyez. Et donc les enseignants principalement, et puis les voisins, les gens qui avaient fait connaissance et qui s'y étaient liés d'amitié avec cette famille, ont alerté toute la population, désiré alerter toute la population, parce que ces gens-là, ces Lozériens, étaient très choqués par ce qui venait d'arriver. Et donc, ils ont organisé une réunion au mois de novembre pour informer la population de ce qui pouvait se passer en France et même en Lozère. Donc, et c'est de là qu'est né le réseau en Lozère.
Donc depuis, vous vous battez pour aider ces personnes-là à être régularisées. Vous expliquez que ça fait des mois que la préfecture refuse toute demande de régularisation.
Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire que l'attente pour ces familles devient de plus en plus longue. Les familles qui sont déboutées du droit d'asile n'ont plus que cette chance, c'est de demander un titre à la préfecture, à titre humanitaire, à titre de vie privée et familiale, même à un titre de séjour pour étrangers malades, parce qu'il y en a qui sont très malades. Ils demandent ce titre, c'est leur dernier espoir, et ils attendent la réponse positive ou négative de la préfecture. Mais la préfecture se tait pour la plupart du temps. Lorsqu'ils demandent ce titre, ils font un dossier, bien sûr, on ne demande pas un titre de séjour comme ça. Il faut donner des preuves qu'on veut bien s'intégrer, qu'on apprend le français, qu'on se lie d'amitié avec les voisins, que les enfants vont à l'école, je me mets à leur place, que les enfants vont à l'école régulièrement, etc. Donc il y a un tas de témoignages, un tas de papiers qui sont envoyés à la préfecture, des promesses d'embauche, donc ça fait chercher des employeurs qui sont prêts à embaucher des gens lorsqu'ils auront l'autorisation de travailler, parce que l'autorisation de travailler leur est donnée par le préfet. Et donc si c'est le silence, ça veut dire qu'ils ne peuvent ni travailler ni rien faire.
Aujourd'hui, en Lozère, combien de familles ou combien de personnes sont suivies par le réseau RESF ?
Alors aujourd'hui, parce que c'est vraiment aujourd'hui, ça peut changer demain, nous suivons 5 familles qui sont là depuis on va dire en moyenne entre 1 et 4 ans, hein, parce qu'il y en a qui sont là depuis longtemps. Mais il est évident qu'il doit y avoir d'autres personnes dont on n'a pas connaissance, celles qui arrivent directement au 115, par exemple. Donc nous, on suit pour l'instant 5 familles, mais il peut y en avoir 2 autres. Ou si vous voulez, on sait qu'il y a aussi d'autres familles qui sont pour l'instant en attente de leur réponse de droit d'asile et donc qui sont accueillies au centre de demandeurs d'asile de Chambon. Si cette famille demain reçoit une lettre de refus, et bien de nouveau, on va se retrouver avec un nouveau cas, quoi.
Il y a également le problème des couples mixtes.
Alors, le problème des couples mixtes, c'est très particulier parce qu'on a souvent le cas de couples azéri-arméniens, par exemple. Souvent, le mari est arménien, la femme est azéri. Ils ne sont reconnus ni dans un pays ni dans l'autre. Donc, ce que cherche à faire la préfecture, c'est d'obtenir un laissez-passer soit dans un pays, soit dans l'autre. Ce laissez-passer, pour l'instant, ils n'ont jamais réussi à l'obtenir parce que l'Azerbaïdjan refuse, l'Arménie refuse. En attendant, ces personnes sont là, elles attendent. On a un autre couple mixte pour l'instant aussi qui vraiment nous ennuie parce que la jeune femme est enseignante en Lozère et son mari... Et nigérien, voilà, je cherchais sa nationalité. Ils se sont mariés l'année dernière, c'est leur anniversaire de mariage, je crois bien, cette semaine-là. Ils se sont mariés à Nîmes, et ben voilà, il est toujours en attente. Le monsieur a reçu une OQTF, et voilà, ça veut dire que bon, ils ne sont pas pour l'instant séparés, mais ben, ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres de quitter le territoire. Lui, il a sa famille qu'il ne peut pas visiter, qu'il ne peut pas recevoir. Ça crée vraiment une tension entre eux. Voilà, c'est insupportable.
Ce sont des gens qui, pour beaucoup aussi, ont des promesses d'embauche, preuve de leur intégration, mais sans ces papiers, ben ils peuvent justement pas exercer de profession légalement entre guillemets en Lozère.
Ben bien sûr, parce que mettez-vous à la place des employeurs. Un employeur, il accepte de faire une promesse d'embauche, ça veut dire qu'il a besoin de quelqu'un. S'il a besoin de quelqu'un, c'est urgent en principe. C'est pas dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Donc les employeurs très compréhensifs et qui soutiennent finalement la condition de ces familles veulent bien patienter 1 mois, 2 mois, 3 mois. Au bout de 6 mois, c'est fini, quoi. Ils embauchent quelqu'un d'autre. C'est évident. C'est évident.
Et ce temps d'attente vous oblige également à refaire avec eux régulièrement des dossiers.
Et naturellement. Donc, quand ils ont une ou deux promesses d'embauche, qu'ils ont des dizaines de témoignages de voisins, d'amis, etc., et que tout à coup, à force de relancer la préfecture leur dit « Ah ben, on va essayer d'être plus attentif à votre dossier. Il faut que vous nous refassiez votre dossier, que vous nous le remontiez. » Donc, on recommence tout à zéro et on ne tient pas compte de tous les papiers qui ont été envoyés. Donc ça, c'est insupportable. Et pour eux, et pour nous, parce que bon, ben nous, quand même, je veux dire, nous avons aussi notre vie. Nous n'y gagnons rien. Hein. Nous sommes tous des bénévoles. Nous défendons ces gens, mais surtout, nous défendons nous. Parce que moi, je ne fais pas ça par charité, par bienfaisance. Je fais ça parce que je me dis que un pays tel qu'il accueille ses étrangers, c'est la façon dont il va accueillir ses enfants à la prochaine génération. Et je tiens vraiment à dire ça. Moi, que si je ne fais rien, que je suis au courant de ce qui se passe, je ne peux plus regarder mes enfants en face. Et je ne peux plus regarder mon petit-fils en face. Et je ne supporterai pas que dans 20 ans, ils me disent « Mais tu savais, tu n'as rien fait ».
J'imagine aussi que cette attente, toute cette pression joue sur la santé, sur l'état psychologique de toutes ces familles, de toutes ces personnes.
Mais bien sûr, parce que ils arrivent en état de choc. Ils ont fui leur pays, parce qu'on quitte pas son pays comme ça. Hein. On quitte pas toutes ses origines, sa famille qu'on sait qu'on ne reverra plus. Voilà, on part de chez soi, c'est on fuit. Donc, ils sont traumatisés complètement parce qu'ils ont subi des choses, mais c'est abominable. Hein. Les femmes ont été violées. Il y a des familles qui ont perdu un enfant qu'une voiture leur a renversé sur le trottoir volontairement. On est tout le temps dans des histoires glauques, mais vraiment glauques. Et ils arrivent, ils sont complètement choqués. Ils commencent le temps de l'attente où leurs enfants sont scolarisés. Ils commencent à reprendre une vie un peu normale. Donc l'espoir renaît, ça dure des mois. Leurs enfants parlent à une vitesse le français, parce que pour les enfants, on voit, ils sont tous matures avant l'âge. Ces gamins, ils n'ont pas eu de vie de gosse. Hein. Pour eux, ils ont tout de suite compris, dès l'entrée à la maternelle, que l'école, c'est leur sauvetage, c'est leur bouée de sauvetage. Donc ça leur redonne un espoir fou, et puis brutalement, on leur dit non, vous n'avez rien à faire ici, retournez chez vous, retournez vous faire massacrer. Voilà quoi, on imagine tout à fait que psychologiquement, c'est vraiment c'est invivable.
Vous parliez de leurs histoires, il y a une des difficultés également pour eux, c'est justement de prouver la situation initiale dans leur pays qui les a poussés à venir ici.
Ben naturellement, comment voulez-vous qu'ils prouvent ça? Par exemple, bon, je prends les Tchétchènes, par exemple, qui ont tous été torturés, qui ont été enlevés, kidnappés, qui ont subi un tas de choses. S'ils se sauvent, c'est qu'ils n'ont aucun moyen de défense chez eux. Comment voulez-vous qu'ils puissent prouver officiellement ce qu'ils ont subi? Parce que, bien sûr, ils ont leurs blessures physiques. Hein, y en a qui ont des traces de balles, de blessures à armes blanches et tout ça. On leur dit que ça ne suffit pas, que ça ne suffit pas comme preuve. qu'est-ce qu'on peut apporter comme preuve, quoi, hein. Des vidéos d'agression qui seraient certifiées par un huissier, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible.
Pas tout seul, j'imagine qu'il y a aussi un noyau dur, mais aussi des gens autour de vous, autour du réseau, pour vous donner un coup de main, pour vous aider, même des élus qui vous soutiennent.
Alors, nous avons des élus qui nous soutiennent, principalement si vraiment on les sollicite. Si on les sollicite pour une famille en leur exposant le cas, voilà, au cas par cas, voilà, ils nous soutiennent. Mais ce n'est pas systématique. Ce n'est pas systématique, malheureusement. Il y en a quelques-uns, oui, je ne veux pas dire. Voilà, un ou deux, mais c'est trop rare.
Vu qu'on parle des élus, le gouvernement a changé, vous attendiez beaucoup de ce gouvernement. Est-ce que les choses changent ?
On s'attendait surtout à beaucoup plus d'humanité. Et on s'attendait à ce qu'il n'y ait plus de quotas, qu'on arrête de classer les gens dans des paperasses et de cacher ces histoires dramatiques derrière des textes de loi auxquels on ne veut pas déroger. Finalement, ça ne bouge pas. C'est même au contraire... Enfin, je dirais au contraire. Voilà, on ne dit plus rien. On ne dit plus rien, on laisse tout en suspens, on fait traîner, on ignore. Mais les drames existent toujours et les gens sont toujours là. Et voilà, donc ça ne change rien. Rien pour l'instant, malheureusement.
Pour finir, comme on demande à nos invités à chaque fin d'interview, on va vous demander de vider vos poches.
Alors, dans mes poches, je n'ai pas souvent grand-chose, j'ai toujours peur de perdre, mais j'ai un Kleenex pour pleurer, parce qu'on pleure beaucoup avec les familles, et j'ai mon sourire qui n'est pas dans la poche, mais des fois ça sert pour les réconforter. Voilà.
On va vous demander également de choisir une chanson pour terminer cette émission.
Alors, je vais dire une chanson du groupe HK, On lâche rien, parce que voilà, c'est notre devise à nous aussi.
Merci beaucoup.
De rien.
Du fond de ma cité HLM jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs, ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien. Si c'était le cas, on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est qu'on est chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente de l'Airbus? Au fond, il n'y a qu'une seule règle en somme: se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. La belle parole, on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, on lâche rien. Quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse sans papier, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'à la lutte, y'a de l'espoir. Tant qu'à la vie, y'a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant, tu sais pourquoi on se bat.
Notre idéal est bien plus qu'un rêve, un autre monde, on n'a pas le choix.